100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans 100 ans d'histoire qui reprend pour l'année 2025. Et nous retrouvons donc Jean-Sara Méa, historien et géographe. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous et un grand plaisir, 5 mois et demi après, de retrouver le Briançonnais.
Eh bien, vous êtes de retour avec, pour une première émission, la thématique du 8 mai, puisque c'est cette semaine-ci, et c'est les 80 ans de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Alors, la question du jour, ce sera, parle-t-on d'armistice ou d'autre chose ?
Eh bien, on parle de 3 vocabulaires différents qui répondent à 3 mémoires organisées, volontaires bien sûr, mais différentes. Alors, tout d'abord, très clairement, armistice, c'est une erreur, et même une grave erreur, je vais expliquer pourquoi. Mais on l'entend, on le lit dans certaines émissions plus ou moins historiques, on le lit dans des articles. Bon, alors... expliquons tout de suite la différence. Le 8 mai 1945, 7 mai à Reims, 8 mai et dans les premières heures de la nuit, le 9 mai à Berlin, il y a des décalages horaires. C'est la capitulation de l'armée allemande. Et une capitulation n'est pas un armistice. Quand on dit armistice en histoire, on pense au 11 novembre 1918, où là c'est en effet un armistice, et à juin 1940, l'armistice voulu par le maréchal Pétain mettant fin à la campagne de France. Alors, pourquoi cette différence de vocabulaire ? Un armistice est signé entre États, et non pas entre militaires. Ce sont donc des chefs d'État ou leurs représentants qui interrompent momentanément un conflit en attendant un traité de paix. Voilà ce qu'est un armistice. Donc 1918, c'est tout à fait ça, et 1940 aussi. La capitulation, c'est autre chose. La capitulation n'est signée qu'entre militaires. Il n'y a pas de chef d'État. À Reims comme à Berlin, il n'y a pas de chef d'État ni leurs représentants. Ce sont des militaires américains, anglais, français et soviétiques, et allemands, pour le vaincu, qui signent la capitulation. Voilà, donc, au niveau du vocabulaire, c'est une différence importante également au niveau juridique. Alors, pourquoi emploie-t-on plus ou moins indifféremment les deux, bien que l'armistice soit une erreur? Tout simplement parce qu'il y a eu des mémoires différentes. Je prends l'exemple du général de Gaulle, qui est donc à la tête de la France, le 8 mai 1945. Il n'emploie pas le mot capitulation, il emploie le mot victoire. C'est un militaire, donc même par la suite, même lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 et qu'il préside des cérémonies, notamment le 20e anniversaire qui sera important avec un jour férié, donc le 8 mai 1965, le général de Gaulle n'emploie que le mot « victoire » des alliés, dont fait partie la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la 4e République, en 1953, c'est bien oublié. Dans un moment très délicat, d'une part, on essaye d'intégrer l'Allemagne de l'Ouest, on est 8-9 ans après la fin de la guerre, on essaie d'intégrer l'Allemagne de l'Ouest dans l'Europe en construction. Donc, on va essayer de ne pas trop la chagriner. Donc, on ne va pas employer le mot capitulation. Parce que capitulation, c'est sans condition. Ça veut dire que le vaincu se met totalement à la disposition du vainqueur et rend toutes ses armes. Et puis, 1953, c'est un débat terrible dans toute la France jusqu'en août 1954. Est-ce qu'on va créer une armée européenne ? Les États-Unis sont d'accord, la France est plus ou moins d'accord, et puis, un an après, le Parlement français dira non, c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas, à l'heure actuelle, d'armée européenne. Alors, pour ne pas chagriner les Allemands, la presse, mais aussi les députés français, emploient le mot d'armistice, à tort, mais c'est un édulcorant. Voilà. Donc, il y a dans des textes de loi, et lors de commémorations, en 1953, ce mot armistice qui va rester dans l'oreille de beaucoup de personnes. Alors, par la suite, donc, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, à partir de 1958, il n'y a plus de jour férié. Le 8 mai n'est plus férié, sauf, comme on l'a dit, pour le 20e anniversaire. Mais c'est exceptionnel. Donc, jusqu'au milieu des années 70, il y a des commémorations, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas férié. Le président Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, lui aussi veut insérer davantage l'Allemagne de l'Ouest, bien sûr, dans la construction européenne. Donc, il décide que le 8 mai ne sera plus férié, même à titre exceptionnel, et ne sera plus commémoré. Le 8 mai disparaît du calendrier des commémorations de la République, à partir de 1975. Donc, en prenant un petit peu le contre-pied, lorsque François Mitterrand est élu en 1981, c'est un peu trop tard pour le 8 mai, mais il accepte une proposition du Sénat. Ce n'est pas lui qui l'a décidé. Ce sont les sénateurs qui, à partir de l'automne 81, demandent au président de la République de rétablir le 8 mai comme jour férié et comme commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Ça ne met pas en cause l'Allemagne de l'époque, ça ne met pas en cause la construction européenne, mais c'est au fond le retour à une vérité, d'autant plus que les chefs d'État d'Allemagne de l'Ouest disent, je pense à Madame Merkel plus tard, disent à chaque 8 mai que l'Allemagne a été victime du nazisme. Bon. Donc voilà, c'est depuis le 8 mai 1982 que la loi française en fait un jour férié régulier et une commémoration régulière avec le terme de capitulation de l'Allemagne nazie. Voilà, précision de vocabulaire et évolution. Vous savez, la mémoire fait partie de l'histoire parce que le passé est vécu ou réactualisé en fonction de sensibilités qui évoluent et d'enjeux internationaux qui évoluent, elles aussi et eux aussi. Voilà, sujet de réflexion. Mais en tout cas, ce n'est pas un armistice. Point.
Merci Jean-Sarah Méa et on vous retrouve tous les lundis à 18h10 pour votre émission à partir de maintenant.
Eh bien, j'en suis très honoré.
À la semaine prochaine.
À bientôt.